Le MIPIM, le plus grand marché international des professionnels de l'immobilier. Du 15 au 18 mars 2022, au Palais des Festivals à Cannes. En partenariat avec le groupe IWG, Alila et Colonise. Sur Radio Immo.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Nous enchaînons voilà, ici au MIPIM, 9h34, premier jour du MIPIM. Un MIPIM placé sous, on va dire, les... Alors, pas sous le signe des câlins, parce qu'on va peut-être attendre un petit peu avant de se congratuler. Mais en tout cas, le fait déjà de se retrouver, c'est super. En tout cas, un MIPIM versus, comme si finalement cette pandémie n'avait pas eu lieu, mais elle a eu lieu, bien évidemment. Il faut qu'on en parle tout à l'heure aussi, avec Christophe Burkhardt, directeur général d'IWG France, qui est avec nous. Bonjour Christophe.
Bonjour Sylvain.
Première matinale avec deux rendez-vous. Marc Dixon, le fondateur d'IWG, Christophe Burkhardt, vous pouvez pas faire moins. Hein.
Écoutez, j'essaie de mettre en œuvre ce qu'ils nous demandent de faire. Donc, je suis ravi que vous l'ayez en tout cas interviewé ce matin. J'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant.
C'était extrêmement intéressant et c'est des choses sur lesquelles je vais vous demander de réagir. On va dire sur le territoire français métropolitain, on va parler de la France. La France a doublé quasiment le nombre de centres dans les deux dernières années.
Quatre dernières années.
Énorme. Mmh. Énorme. Mmh. Énorme. Moi, j'ai envie de vous poser la même question qu'avec Marc Dixon. Qu'est-ce qui fait que ça s'est développé? Je vais prendre un exemple. Est-ce qu'il y avait un mouvement, finalement, avant la pandémie, qui était bien installé, qui bouleversait les modes d'usage et du travail? Que la pandémie, finalement, si elle devait avoir une vertu, bien sûr, ça a été une tragédie, hein, c'est clair, mais elle a accéléré définitivement ce processus favorable au développement des marques du groupe IWG, je rappelle, hein, Regus, Spaces, HQ, Signature.
Et Stop and Work.
Et Stop and Work.
Absolument. Il ne faut pas oublier Stop and Work parce que c'est vraiment une marque qui est emblématique du changement dans le domaine des usages qu'on est en train de connaître. Effectivement, vous avez raison, le développement s'accélère. Jusqu'en 2015, on ouvrait en moyenne un centre tous les deux ans. Depuis 2015, un centre tous les mois. Et notre plan, c'est de passer à deux ou trois centres par mois dans les trois prochaines années. On sait que le potentiel global est à peu près de 1000 sites en France. On en a aujourd'hui 140 dans 76 villes. Donc on a fait à peine 15% du chemin.
76 villes, 140 centres, et il n'y en avait pas la moitié il y a 4 ans.
C'est ça, absolument. Absolument.
C'est considérable. C'est combien d'utilisateurs, on le sait, ça, aujourd'hui?
À peu près 20 000 tous les jours, 20 000 personnes qui viennent utiliser nos services. Oui.
20 000 tous les jours. Alors, ce succès, on est d'accord que le succès est planétaire?
Oui, c'est à peu près la même tendance partout dans les différents pays. Et effectivement, le réseau IWG mondial comportait 1500 centres il y a à peu près 6 ans. Et aujourd'hui, c'est 3003.
Alors, je vais reprendre un concept aujourd'hui qui est très à la mode, mais qui est plus qu'une mode, bien évidemment, parce que c'est devenu une modification presque, comme je disais tout à l'heure, anthropologique, puisqu'elle bouleverse les codes, notamment sur la mobilité, l'approche de l'espace, du mètre carré, du bureau, qu'on appelle la ville du quart d'heure. Voilà. La ville du quart d'heure, c'est plusieurs choses. La ville du quart d'heure, c'est plusieurs thématiques, la polycentralité, plusieurs centralités, éducation, culture, loisirs, et travail. Alors, cette notion du quart d'heure, est-ce que ça veut dire, Christophe Burkhardt, que... Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens, globalement, et on le voit hein, d'ailleurs dans les mouvements, ne veulent plus, ne feront plus autant de trajets pour aller bosser tous les jours.
C'est ça, absolument. Le sujet, c'est les trajets. C'est extrêmement pénible pour les gens et c'est très, très pénible pour la planète également. La ville du quart d'heure, ça n'est pas qu'un concept, hein, c'est une réalité. D'ailleurs, c'est une approche qui a été lancée par la ville de Paris. Donc, la ville de Paris a été très innovatrice dans ce domaine-là. Ce concept a ensuite été repris dans d'autres villes, en France et dans le monde, mais ça vient au départ de Paris. On nous a embarqués dans cette approche, puisque au sein de Paris, on a une quarantaine de centres pour mailler Paris et rendre ce concept tout à fait réaliste. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce sujet s'accélère depuis la pandémie, puisque la notion de travail hybride, c'est-à-dire... Les entreprises qui mettent à la disposition de leurs employés non pas un lieu de travail, mais des lieux de travail différents, eh bien cette pandémie et ce télétravail qui se met en place accélère la mise en œuvre du concept de la ville du quart d'heure.
Alors la ville du quart d'heure, je rappelle plusieurs choses. Hein. Le travail, mais pas que. L'éducation, les écoles pour les enfants, on est d'accord?
Tout à fait.
L'approche de commun, espace vert, beaucoup plus présent, puisque la pandémie a aussi eu cet aspect, c'est que les gens ont fait connaissance avec leur logement et ils se sont rendus compte de la promiscuité et des difficultés qu'ils avaient, puisqu'on se rend compte par exemple que de plus en plus les gens veulent des communs, balcons, terrasses, etc. Mais il en va de même pour le travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais prendre, vous avez parlé tout à l'heure de Stop and Work, moi j'aimerais bien qu'on creuse un petit peu cette idée, si vous voulez bien. Stop and Work, ça répond à quoi exactement? Est-ce que c'est le point de ralliement à proximité de n'importe quel lieu d'habitation, même en dehors des grandes métropoles?
Alors Stop and Work, qui est une marque de la holding, c'est le concept de la ville du quart d'heure en dehors des grandes villes, en dehors des grandes métropoles.
On peut prendre un exemple, une ville?
Bon, écoutez, Stop and Work, vous en trouvez à Bourg-la-Reine, à Fontainebleau, à Maison-Lafitte.
Dans des villes où on pourrait, on dit pas forcément qu'il y a des bureaux partout, quoi.
Exactement. Voilà. Ce sont des villes résidentielles, et donc l'idée de créer la ville du quart d'heure dans ces zones-là, c'est d'apporter le poumon économique qui n'existe pas aujourd'hui. Et lorsque l'on va s'installer à Fontainebleau ou quand on va s'installer à Maison Lafitte, on permet aux entrepreneurs locaux et aux collaborateurs des grands groupes de pouvoir travailler à côté de leur domicile, et donc on rend ce concept de la ville du quart d'heure véritable, parce qu'à partir du moment où vous redynamisez économiquement ces zones-là, alors le reste des services, les écoles, les restaurants, eh bien peuvent s'implémenter et on crée du lien social.
Alors créer du lien social, ça veut dire que ces immeubles-là, ces espaces de travail, peuvent être en zone urbaine, en zone résidentielle. On est d'accord ?
Tout à fait.
Là où on ne trouvait pas de bureau, finalement on va trouver un Stop and Work.
Exactement.
Je suis dans une résidence pavillonnaire avec 40 ou 50 000 habitants, par exemple dans une petite ville, prenez Bourg-la-Reine par exemple, c'est tout à fait le cas, je vais trouver un Stop and Work. Donc en fait, je vais éviter ces 2 heures de transport qui me rendaient complètement schizophrène. Quoi.
Absolument, sans compter donc l'impact positif sur la planète, et qui est un sujet très très important
à
maintenant
la mobilité. Oui, bien
voilà,
sûr.
Pour les nouvelles générations qui posent cette question-là. Et donc c'est la décentralisation d'une certaine manière économique en apportant ces tiers-lieux dans ces zones-là, et donc recréer de la richesse.
En fait, c'est une décentralisation sans texte de loi.
C'est tout à fait ça.
C'est un mouvement de population
mouvement
qui fait que...
Permis par deux choses, par donc, le télétravail et le refus des gens de passer trop de temps dans les transports en commun, plus la révolution numérique qui permet de travailler à distance de manière très efficace.
Oui, on en parlait d'ailleurs avec Mark Dixon, il fut une époque, effectivement, ça n'aurait pas été le cas, où la pandémie aurait été beaucoup plus catastrophique, parce qu'à l'époque, où il n'y avait pas Internet ou les smartphones. Justement, le télétravail, est-ce que c'est l'abolition du retour finalement au contact avec ses collègues, etc. Non ?
Non, je crois que c'est tout à fait complémentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un extrême qui dit on doit prendre les transports en commun tous les jours pour aller s'enfermer dans un bureau et travailler des bureaux d'entreprise 5 jours sur 5, c'est un extrême voilà, qu'il faut remettre en cause. Néanmoins, dire qu'on passe son temps chez soi tous les jours sans voir... les autres membres de l'équipe, c'est un autre extrême qui n'est pas bon. Donc l'idée, c'est le travail hybride, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est la complémentarité des lieux que vous utilisez en fonction de votre besoin. Soit vous avez une tâche à réaliser en mode extrêmement concentré, vous pouvez la faire de chez vous. Vous pouvez également utiliser notre réseau quand vous êtes en déplacement, quand vous voyez vos clients, vos partenaires. Et puis de temps en temps, il faut revenir sur les bureaux de l'entreprise parce qu'il faut se retrouver. Et lorsque le présentiel est justifié pour du brainstorming ou pour des activités de formation, eh bien, ça a tout son sens de se déplacer et de retourner dans l'entreprise.
C'est quoi le bon modèle hybride pour Christophe Burkhardt? C'est 2 jours, 3 jours, c'est 3 jours, 2 jours, c'est quoi?
C'est surtout pas ça, c'est surtout pas des règles. C'est une organisation globale du travail qui va être différente en fonction
des
métiers.
Donc ça peut être 1, 2 ou 3 jours.
Si vous êtes comptable ou si vous êtes créatif dans une agence de pub, vous n'avez pas du tout les mêmes besoins.
C'est clair.
Voilà, donc c'est la question de fond, c'est quelle est la valeur que l'on donne aux collaborateurs lorsqu'on leur demande de venir dans l'entreprise? Si cette valeur liée au présentiel est forte, il faut venir plus souvent. Si par contre, effectivement, le comptable qui s'enferme dans un bureau, on a moins d'intérêt. Donc voilà, il faut partir de l'organisation du travail, il faut comprendre quelle est l'importance du présentiel à l'entreprise, et à partir de là, l'immobilier doit contribuer à la mise en œuvre de ces politiques.
Comme vos collaborateurs, il y a des fonctions chez vous qui ne sont pas télétravaillables, ne serait-ce que ceux qui sont à l'accueil des centres.
C'est des ressources humaines.
Et effectivement, ceux qui travaillent sur les fonctions support, où là, effectivement, ils peuvent être partout dans le monde. Et c'est le cas d'ailleurs pour UWG. Dernier élément dont je voulais vous parler, bien évidemment, c'est le développement. Vous en avez parlé de la France, ou dans laquelle vous avez un potentiel absolument énorme. Vous avez fixé le cap. D'ailleurs, Mark Dixon a fixé le cap pour le monde, hein, avec plus de 30 000 centres prévus. Quand on prend aujourd'hui ces éléments-là, la question que je souhaitais vous poser, c'était est-ce qu'aujourd'hui, le positionnement que vous avez, qui est un positionnement multipolaire avec toutes les marques, hein, vous adressez à toutes les strates de population. On est d'accord, Signature, c'est quoi? C'est du très haut de gamme.
C'est ça.
Vous avez Regus, qui est la marque aussi emblématique, hein, qui a fondé le groupe. Stop and Work est une marque...
Des territoires.
Des territoires. Des tiers, Le tiers-lieu, oui. On pourrait dire le tiers-lieu.
Tous les centres sont des tiers-lieux. Voilà. L'intérêt de Stop & Work, c'est d'aller apporter service dans des zones résidentielles où personne n'avait imaginé pouvoir les trouver.
Absolument. Et Spaces, bien évidemment, avec un concept très original. J'en sais quelque chose, puisque on est dans un Spaces. Mais la question que je vais vous poser, est-ce qu'on pourrait voir un élargissement du type de concept, de ce concept d'hôtellerie d'entreprise, vers d'autres choses? Est-ce que ça pourrait être le cas?
Je crois que le multiservice est le sujet. Et je crois que des partenariats entre des gens comme nous, IWG, et des acteurs du co-living, et des acteurs du commerce,
par exemple, voilà,
pour créer des complexes extrêmement serviciels et rendre encore une fois cette ville du quart d'heure réelle, pour que les gens puissent vraiment l'expérimenter, ça effectivement, c'est un concept qui va se développer. On a un exemple, un début d'exemple sur le plateau de Saclay, où on a ouvert un Stop & Work de 6000 m² dans lequel on trouve un cycle de vie serviciel pour l'entreprise. C'est-à-dire que vous avez un incubateur, une pépinière et un hôtel d'entreprise. Vous avez des programmes d'accélération, notamment avec des consortiums, comme on a fait avec la French Tech, la SAT, Incubé Alliance, Creative Valley, qui sont des spécialistes, des start-up et des scale-up. Et puis, on a mis des ressources partagées. On a un Media Lab, on a un laboratoire de réalité virtuelle pour permettre aux entreprises qui ont des projets ou aux entrepreneurs qui ont des projets d'arriver, de trouver un concept extrêmement serviciel et de pouvoir se développer au cours du temps avec ses ressources pour un jour atteindre l'hôtel d'entreprise en tant qu'entreprise qui a réussi.
Finalement, vous êtes le pendant de Colonies, qui est le leader de l'habitat partagé, pour la version, entreprise.
Et on serait ravis de travailler avec eux justement sur ces concepts-là.
On sera ravis d'ailleurs de vous mettre en relation avec eux, mais la deuxième chose, c'est aussi ce que vous faites avec le groupe Accor.
À l'Accor Arena.
Les exploitants hôteliers pourraient aussi se poser la question sur leurs immeubles en exploitation, de se poser la question d'utilisation de leur espace, et là aussi vous apportez des solutions.
Oui, notamment sous forme de franchise, puisque une grande partie des hôteliers sont en mandat franchise, et donc quand vous pensez au métier de l'hôtel, et que vous pensez à notre métier, on est en fait un hôtel d'entreprise. Vous avez énormément de synergies à créer. Pour les clients, monsieur, vous travaillez le jour, vous dormez la nuit, vous allez pouvoir trouver tout ça dans le même concept. Puis des synergies en termes de service sur le food and beverage, sur les entretiens, etc., etc. Salle de formation, salle de réunion, etc.
Alors vous êtes ici au BPIM, vous allez rencontrer vos clients, vos investisseurs.
Oui.
C'est important pour vous, Christophe.
Bien sûr, on est ravis de revenir. Les agendas n'ont jamais été aussi denses que cette année. Donc on sent vraiment que tout le monde revient et tout le monde a envie de bosser à fond.
C'est ce que nous disait Marc avec plus de 700 meetings. En tout cas, si on veut en savoir plus, vous allez sur le site, bien sûr, de IWG, de Spaces, des marques du groupe. Je rappelle, Stop & Work, Signature, Regus, Spaces. Extrêmement intéressante. Vous pouvez aussi rejoindre ici sur le stand Riviera, Riviera 7, le stand IWG. On est à côté du plateau de Radio Imo. On sera ravis de vous écouter. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus
Écoutez, de trouver des investisseurs qui acceptent d'aller dans le territoire.
Et je pense que ça va être non seulement le cas, mais pour plaider votre cause, des territoires qui étaient en décroissance démographique retrouvent des couleurs démographiques à cause justement de ces populations qui quittent les grandes villes et qui ont envie de trouver du sens dans leur job. Et je pense que vous êtes encore plus dans le concept contemporain, puisqu'effectivement, une entreprise qui évolue et qui s'adapte, on voit bien que le groupe IWG a trouvé son public. Et quand on voit le développement aujourd'hui du groupe, c'est tout à fait le cas. Merci Christophe Burkhardt.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes le directeur général de IWG France. On continue nos programmes. Il est exactement 9h48 et bien évidemment, on avait décidé de clôturer toutes nos interviews sur une pensée émue d'un grand homme qui a disparu vendredi matin dans la journée. Il s'appelle Laurent Vimon, qui était le président de Century 21. Nos pensées vont à ses amis, ses proches, sa famille et on en parlera bien sûr toute la semaine. Merci à tous.
Le MIPIM, le plus grand marché international des professionnels de l'immobilier, du 15 au 18 mars 2022 au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec le groupe IWG, Alila et Colonies sur Radio Immo.